Bonjour Tiffaine, et demain on continue d'entendre avec vous l'écho. Et de notre côté, nous terminons notre thématique consacrée à l'écrivain Claude Simon.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Angelo Rinaldi, académicien et longtemps responsable du Figaro littéraire, avait eu cette phrase désobligeante à l'endroit de Claude Simon en parlant de son impossibilité pathologique de narrer transformée en système. Cette saillie résume bon nombre de commentaires sur l'œuvre du prix Nobel 1985 de littérature, dont les livres sont réputés difficiles. Mais quand on lui faisait cette remarque, Simon aimait y répondre en disant « Mes livres sont difficiles, en effet, si l'on s'attend à lire un roman de Balzac. » Balzacien, Simon ne l'était pas, mais il avait lu l'auteur de la Comédie humaine, il avait également lu Proust, et cela se sent dans son travail. Son projet a d'abord été de restituer par l'écriture un état subjectif de conscience, ce pourquoi on a pu le qualifier d'écrivain réaliste, car il cherchait à reproduire la réalité d'une perception. Puis il s'est tourné vers une technique d'écriture qui se générait presque elle-même et à laquelle il lâchait la bride tout en façonnant, très consciemment, ses images comme des tableaux. Tout cela, nous en avons parlé au cours des trois premières émissions de cette semaine, avec Mireille Kalgruber d'abord, qui nous a raconté lundi sa biographie, puis avec Alastair Duncan, mardi, et Dominique Viard, hier, lesquels se sont attachés à analyser son œuvre. Et aujourd'hui ? Pour parler des romans de Claude Simon, L'Acacia et Les Géorgiques, nous sommes avec vous, Guy Scarpetta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, essayiste, critique d'art, auteur de nombreux livres. Chez Grasset, vous aviez publié en 1996 un essai intitulé « L'âge d'or du roman » où vous présentiez une suite de 12 essais sur des romans contemporains, des romans de Rushdie, Philip Ross, Kundera, Vargas Llosa, Goiti Solo, Danilo Kiss, Kenzaburo Oe, Carlos Fuentes et Claude Simon, j'en oublie sans doute, Claude Simon, dont vous analysiez le roman L'Acacia, que vous teniez, disiez-vous à l'époque, pour son grand chef-d'œuvre. Est-ce que vous le pensez toujours aujourd'hui ?
Oh, tout à fait. C'est peut-être même le livre de Claude Simon que je conseillerais pour quelqu'un qui voudrait aborder l'œuvre.
Plus que La Route des Flandres, qui est davantage célèbre ?
La Route des Flandres est davantage célèbre, mais même si tout le monde n'a pas l'incapacité pathologique à lire de Rinaldi, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué de lire La Route des Flandres que de lire L'Acacia. Ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que dans La Route des Flandres, on a une thématique proche, au point que certaines séquences sont des variations.
Donc la guerre. Hein,
voilà. Mais dans La Route des Flandres, il y a une sorte de télescopage des temps sans transition. C'est-à-dire que selon le principe proustien de l'analogie de sensation qui suscite le rapprochement de temporalité différente, dans La Route des Flandres, c'est dans la continuité. On passe d'un temps à l'autre sans aucune transition, sans aucune marque. L'Acacia, par rapport à ça, est un roman très structuré.
Donc plus facile à lire, d'une certaine
manière.
Plus
facile à lire, parce que même les séquences sont datées, par exemple, dans L'Acacia. C'est pas un puzzle, mais il y a une histoire qu'on peut reconstituer à partir de des indications chronologiques.
Donc c'est plus facile, mais on ne perd pas non plus ce qui fait la particularité du roman de Claude Simon.
Non. Je pense même que, du point de vue du style, par exemple, on a là un sommet qui se renouvellera avec le Jardin des Plantes. Mais ce qui est amusant, c'est de noter que Claude Simon a écrit plusieurs de ses chefs-d'œuvre après avoir eu le prix Nobel.
Ça veut dire qu'il n'a pas été stérilisé finalement.
Il n'a pas été stérilisé
par la reconnaissance.
Il n'y a pas eu l'effet Hemingway.
Ouais. Alors vous avez intitulé votre essai dans ce livre L'âge d'or du roman, l'essai consacré à Simon, L'arbre de l'écriture, en référence évidemment au titre de ce roman L'Acacia. Pourquoi s'appelle-t-il L'Acacia, ce roman qui parle de la guerre ?
C'est un motif. Le personnage traverse la guerre de 40, et il y vit un épisode complètement traumatique, dont on reparlera. Et puis, à la fin du livre, il revient dans sa maison familiale et il commence à écrire un autre livre. Et il y a un acacia, devant sa fenêtre avec des feuilles qui palpitent un peu au vent, dans la lumière, etc. Et il écrit ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il écrit à ce moment-là, dans le roman qui s'appelle L'Acacia, qui est peut-être la fin du parcours, c'est le début d'une des séquences de histoire. C'est-à-dire qu'il devient Claude Simon à la fin.
Donc, ce qui est intéressant, c'est
L'Acacia, la métaphore de l'écriture. Alors, si je peux me permettre une anecdote, j'ai une maison de campagne où,
avec un acacia.
Et un jour, alors, Europe Grillet est venu et m'a absolument convaincu que moi, j'avais un vrai acacia, alors que Claude Simon, dont il connaissait la maison, avait un robinier qu'il faisait passer pour un acacia.
Ouais, mais le robinier, c'était peut-être moins bien comme titre pour un livre.
Voilà. Et c'est là que le côté ingénieur agronome d'Europe Grillet s'épanouissait, quoi, dans ce genre de...
Alors, vous m'offrez une excellente transition avec Rob Grillet pour parler un petit peu de la question du nouveau roman, parce que c'est par là que vous avez commencé aussi votre petit essai justement sur l'acacia, en disant que le nouveau roman, c'était un petit peu limitatif quand même comme étiquette pour qualifier la littérature de Claude Simon. Est-ce que ça lui a fait du mal au fond ?
Ça lui a fait du mal dans l'université. C'est-à-dire que ça a été une sorte de grille de lecture, et notamment dans l'université américaine, hein, qui s'est imposée. Alors que c'est quand même très simple de dire que le nouveau roman n'a jamais été qu'un regroupement d'écrivains très différents les uns des autres, et qui ont eu une solidarité à un moment parce qu'ils avaient des ennemis communs. On pourrait dire la même chose à la nouvelle vague au cinéma, hein, c'est pareil. Après quoi, chacun a poursuivi sa voie, et les voies sont très différentes. Il n'y a rien de plus varié que l'écriture de Claude Simon, si on la met en relation avec celle de Nathalie Sarraute, de Marguerite Duras ou de Rob Grillet.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui.
Et puis il y avait quand même dans cette histoire de nouveau roman des choses bizarres, quoi. Rob Grillet en avait fait un petit manifeste qu'il a lui-même renié très vite, où il disait, par exemple, que l'écriture de nouveaux romans devait fuir la métaphore. Bon, donc, il n'y a jamais... peut-être l'écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle, chez qui il y a la plus grande richesse métaphorique et analogique, c'est Claude Simon. Il y a des métaphores en permanence chez Sarraute. Bon, donc voilà. De même, il y avait ce dogme, comme ça, qui avait été lancé, comme quoi le nouveau roman devait tourner le dos à toute forme d'engagement et par-delà même à toute forme de rapport à l'histoire. Or, Claude Simon, dans l'Acacia, accentue quelque chose qui avait commencé dans le roman qui s'appelle Histoire, donc début des années 60, qui était apparu dans les Géorgiques et qui est le retour de l'histoire comme matériau romanesque.
Donc c'est ça qu'il faut quand même expliquer, et c'est intéressant aussi en rapport avec ce que vous dites sur le nouveau roman et en rapport avec ce qu'est le nouveau roman, c'est-à-dire pas de personnage, pas d'histoire, je schématise, c'est qu'avec les romans de la fin, les Géorgiques, l'Acacia, le Jardin des Plantes, on a de la part de Claude Simon un espèce de retour au personnage, à la narration. Comment ça s'organise tout ça ?
Comme certains peintres qui ont une période plus abstraite et qui reviennent à la figuration, on peut penser à Picasso, à Picabia, voilà.
Ça n'est pas un homme du dogme alors, Claude Simon.
Effectivement, c'est le contraire d'un homme du dogme. Il a un vrai dogme, c'est que la littérature romanesque est là pour dire ce qu'aucun autre discours ne peut dire. Bon, et que le roman n'est pas là pour illustrer ce qui pourrait être exprimé ailleurs et autrement. Il est là pour produire un effet de sens, un effet de vérité qui ne pourrait pas arriver autrement que par les voies du roman.
Un effet de sens et pas un effet de style, parce que la lecture de Claude Simon donne l'impression que ce qui compte, c'est le style. Or, vous expliquez très bien que ça n'est pas ça, c'est comment parler toujours et d'une manière nouvelle d'une expérience humaine.
C'est-à-dire Claude Simon, comme tout écrivain, sait que sa matière première, c'est pas le monde réel, c'est les mots, c'est la langue, mais que l'objectif, c'est quand même de dire le réel, bon, d'une manière ou d'une autre. J'ai eu une correspondance avec Claude Simon à ce propos. Hein. J'avais employé le mot réaliste à propos de cette dernière période. Il avait un peu tiqué. Et il avait fini par admettre que si on voulait pas dire réalisme au sens d'un code du type roman de Balzac ou roman historique, mais si on désignait par réalisme, par le mot réalisme, une fonction, c'est-à-dire dire le monde, dire le réel, à ce moment-là, il l'acceptait très bien.
Mais d'ailleurs, il l'acceptait, y compris pour des romans d'avant la dernière période.
Bien entendu.
Puisque son idée, c'était quand même de restituer le monde et de restituer justement la conscience subjective qu'on peut avoir du monde, ce qui est une forme de réalisme.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi, c'est ça qui est intéressant peut-être dans l'Acacia, ce qui marque un tournant, affronter l'histoire en disant ce que les historiens ne disent pas. Voilà. Et traiter le réel à travers une expérience qu'on essaye de restituer. Le grand paradoxe d'un livre comme l'Acacia, c'est qu'il y a un extraordinaire imaginaire romanesque qui s'y déploie, magnifique, mais que c'est un imaginaire reconstitutif. Ce n'est pas quelqu'un comme Cortázar qui invente des fables. Hein. Ce qu'il imagine, c'est ce qui s'est passé.
Voilà. On va écouter un premier extrait justement de l'Acacia.
Ce fut justement à l'occasion d'un mariage qu'elle se trouva un jour placée à table à côté d'un homme comme elle n'en avait encore jamais rencontré, n'avait même jamais imaginé qu'il pût en exister. L'un des garçons d'honneur du marié, un officier revêtu d'une tunique bleu nuit au col de laquelle se détachaient, brodées en rouge, deux ancres de marine. L'air, avec sa barbe carrée, ses moustaches en croc, ses yeux transparents, liquides, couleur de faïence dans le visage brûlé par le soleil, ses manières non pas taciturnes mais réservées, posées, de quelque chose comme un barbare policé, empreint d'une paisible assurance, qui elle aussi était le contraire de ce que trahissaient les madrigaux et les quatrains griffonnés au revers de ses cartes postales dont elle faisait collection, moins par satisfaction de jeune fille courtisée que comme d'autres font collection de timbres de poste ou de boîtes d'allumettes. Par la suite, lorsqu'à son tour, il lui en fit parvenir, expédié d'un peu partout dans le monde, il se contenta sobrement d'écrire son nom au-dessous des trois chiffres indiquant le jour, le mois et l'année, comme s'il était déjà certain de l'inutilité, sinon même de l'indécence de tout discours, comme si sans doute aussi bien elle que lui en était déjà arrivé à ce stade où une date et un nom, les premières faisant pour la forme précéder la signature de meilleurs souvenirs, puis meilleures amitiés, puis meilleures pensées, puis il n'y eut plus que le nom, suffisait.
La compagnie des auteurs sur France Culture, qu'est-ce que vous entendez, Guy Scarpetta, dans cet extrait ?
J'entends quelqu'un qui raconte la rencontre de ses parents. Claude Simon est né, je ne sais plus si c'est 1913, c'est ça, donc on est à peu près en 1910. Et ça renvoie à l'une des deux grandes séries temporelles du roman, c'est-à-dire ce qui se passe autour de la guerre de 14. Quoi. Son père est mort en 14 au combat, parmi les premiers à avoir été tués. La moitié du roman, c'est-à-dire les chapitres impairs, tourne autour de la mort de ce père en 1914. Et là, il remonte un peu avant, à la rencontre de son père et de sa mère, qui pourrait donner l'impression, si on s'en tient à cette séquence, d'un roman très réaliste. Quoi.
Et même d'un roman historique. Ouais. Est-ce que vous iriez jusque-là ?
Oh, mais il y a cette dimension-là, parce que il en profite pour déployer un luxe de détails assez étourdissant sur les deux milieux sociaux qui s'affrontent dans cette rencontre. C'est-à-dire que c'est une mésalliance, au fond. Le père vient d'une famille très pauvre du Jura, famille de paysans pauvres. Il a deux sœurs qui ont réussi à faire l'école normale de jeunes filles, à devenir institutrices, bon, mais qui reviennent participer aux travaux des champs parce qu'on a besoin d'elles. Et on a poussé le fils, le mâle, à essayer de se sortir de ce milieu. Un accident lui fait qu'il n'a pas pu faire Polytechnique comme il aurait voulu. Il fait Saint-Cyr et il devient cavalier, puis officier de cavalerie, mais en sachant qu'il vient d'une famille très pauvre, alors que la mère vient d'une famille relativement aisée de la région de Perpignan. C'est des gens qui ont des terres, c'est des gens qui ont des vignes. Et il détaille très bien, par exemple, le contraste entre le mode de vie, les loisirs, les rites alimentaires, à quoi on passe ses vacances. L'homme passe ses vacances à venir aider sa famille aux travaux des champs, alors que la femme passe ses vacances à aller voir des courses de chevaux, à aller voir des spectacles de flamenco ou des corridas à Barcelone avec une de ses amies. D'un côté, c'est austère, et de l'autre côté, il y a une certaine opulence, bon, on mange bien, voilà.
Et cette tension, elle est problématique pour Claude Simon, selon vous ?
Ben, elle est presque sciemment polarisée, puisque ça va jusqu'au point où, dans la généalogie du père, il y a un ancêtre déserteur des armées napoléoniennes, alors que dans la généalogie de la mère, il y a un ancêtre général d'Empire. Bon, donc y a une polarité symbolique qui est tout à fait affirmée.
Donc, ce sont deux familles parallèles et qui se croisent, donc au point de jonction qu'est le mariage entre cet homme et cette femme, toujours avec un arrière-fond qui est celui de la guerre. Pourquoi, selon vous, est-ce si important pour Claude Simon ? On se doute que la mort de son père à la guerre de 14 fait partie de la réponse. Et comment, finalement, renouvelle-t-il la manière dont on parle dans un roman de ce que c'est qu'une guerre ?
Alors ça, c'est la question clé, bien sûr, parce qu'il y a mille façons de parler de la guerre. Hemingway parle très bien de la guerre, Céline parle très bien de la guerre, Malraux parle très bien de la guerre. Bon, je dirais que la vraie polarité, c'est peut-être entre si vous prenez par exemple le thème de la bataille napoléonienne, la vision qu'on a de Waterloo dans Les Misérables, c'est-à-dire c'est l'aigle qui regarde. On est au-dessus, on a un point de vue supérieur, on voit les régiments, on voit les détachements, on voit les affrontements, et on a un point de vue stratégique global. Et puis vous avez, quelques années avant, la même bataille de Waterloo vue par Fabrice,
dans
Chartreuse de Parme. Et là, on a la vision bornée d'un personnage qui est plongé dans une bataille à laquelle il ne comprend rien. On voit des chevaux, on entend des cris, il y a du tumulte, il y a de la poussière, il y a du sang.
Claude Simon est plutôt de ce côté-là, d'ailleurs.
Et Claude Simon, je dirais, c'est du Stendhal au superlatif. C'est-à-dire que, pour lui, l'expérience de la guerre, c'est pas tant l'expérience de la guerre de 14 qu'il va reconstituer que celle qu'il a vécue, c'est-à-dire la mort.
Alors écoutons justement un extrait à ce sujet de l'Acacia.
À tâtons et dans le noir, les cavaliers commencèrent à replacer sur le dos des chevaux les selles alourdies par le poids des paquetages et des sabres. Maintenant, ils s'affairaient en silence, étouffant parfois un juron lorsque l'un d'eux s'empêtrait dans les courroies ou se déchirait un doigt sur l'ardillon d'une boucle. Quand tout fut fini, ils se tinrent debout, alignés à la tête de leur monture dans la boue de mâchefer piétinée, commençant peu à peu à sentir la sueur en train de refroidir sur leurs épaules et dans leur dos. Avec les visières de leurs casques luisant faiblement sous la pluie qui continuait à tomber, leurs visages invisibles, leurs obscures silhouettes engoncées dans leurs longs manteaux et leurs éperons où s'accrochaient de faibles reflets, Ils ressemblaient à des sortes d'oiseaux au plumage détrempé, pourvus de becs et d'ergots de fer, qu'on aurait plantés là, espacés régulièrement comme sur un jeu d'échecs, auprès de leurs bêtes apocalyptiques, au long cou pendant, comme accablés sous le poids de la pluie qui collait peu à peu les poils en taches sombres, s'agrandissant lentement de part et d'autre des crinières tondues et sur les croupes.
Une lecture comme la première d'ailleurs par Michael Lonsdal, lecture dans laquelle on entend qu'il est donc question des chevaux, mais aussi de ces hommes qui ressemblent à des oiseaux au plumage détrempé, et cette présence de l'univers animal dans la manière de relater la guerre vous a frappé particulièrement, Guy Scarpetta.
Oui, ça remonte à la route des Flandres. Vous savez, il y a le personnage est prisonnier et quelqu'un de sa famille lui envoie une lettre pour déplorer le bombardement de Dresde et notamment de sa bibliothèque, qui est une des plus belles d'Europe. Et il répond en disant oui, mais si cette bibliothèque de Dresde n'a pas pu empêcher la catastrophe que nous vivons, ça veut dire qu'elle sert à rien et on ferait mieux de s'occuper de ce dont on a besoin, c'est-à-dire du savon, du saucisson, etc. Bon. C'est-à-dire que l'expérience qu'a vécu Simon, c'est l'expérience d'un retour à l'élémentaire. Bon, il a fait partie d'un régiment sacrifié, c'est-à-dire que l'armée française attendait les Allemands en mai 40 derrière la ligne Maginot. Rommel a contourné l'armée française. Et du coup, il y a eu un ordre de retraite qui a abouti à Dunkerque, quoi. Bon, depuis les Ardennes. C'est la route des Flandres. Sauf que Rommel avait laissé des snipers là où l'armée française devait se replier et que les gens avançaient, on leur tirait dessus, quoi. C'était la métaphore du tir au pigeon ou du tir de fête foraine à Rivesaltes. Donc voilà, c'est un régiment sacrifié, c'est une guerre absurde, c'est un ordre stupide. Et au milieu de ça, il y a d'ailleurs un officier à moitié fou qui continue, parce qu'il y avait encore des chevaux. Hein. Claude Simon faisait partie d'un...
Et c'est en ça qu'il est encore plus sacrifié, parce que ce sont des chevaux contre des blindés, contre des avions.
Il y a eu beaucoup de choses à propos de l'armée allemande, de l'armée polonaise, pardon, qui à la même époque envoyait les lanciers à cheval contre les blindés. Là, c'est un peu ça. Bon, c'est une forme à la fois noble, archaïque et complètement dérisoire par rapport à la guerre. Et il vit ça comme une expérience. Bon, on le mène à la mort. Et puis il y a un moment même, il tombe, il rampe.
Un petit peu ce qu'il sauve d'ailleurs, c'est qu'il tombe de cheval.
Voilà. Et puis après, on va le reprendre et le remettre sur un autre cheval. Bon, et là, il va risquer le pire. Mais à ce moment-là, Claude Simon évoque quelque chose de terrible, qui est l'homme réduit à ses réflexes élémentaires, animaux, quoi. Oui. Avec même parfois d'ailleurs une espèce d'acuité dans la perception qui renvoie à ce qu'on peut imaginer d'être la perception d'un animal, c'est-à-dire avoir les sens un peu plus développés que les nôtres. Bon. Et dans tout le roman, il y a un moment d'indistinction générique, c'est-à-dire que les hommes sont métaphorisés par quelque chose d'animal. Là, c'est les oiseaux, les becs métalliques, etc. Ah, par ailleurs, il est question d'une femme à tête de mule, il est question d'hommes à tête de rat, enfin, c'est constamment comme ça. Et à l'inverse, il est question des chevaux qui ont des grands yeux d'almé. C'est-à-dire que il y a l'humanisation de l'animal, l'animalisation de l'homme, et même le monde végétal participe de ça. On est revenu à quelque chose d'indissocié, de primordial, de primitif, et qui rend toute tentative de compréhension ou de rationalisation de ce qui se passe littéralement impossible et probablement un peu dérisoire.
Alors qu'est-ce que ça ajoute par rapport à la vision stendhalienne dans la Chartreuse de Parme ? Qu'est-ce qui vient se surajouter ?
Oh ben, l'expérience de la mort, quoi. C'est l'expérience de la mort. On a On a une déshumanisation totale dans cette expérience, en plus du fait que le, manifestement, l'état-major a sacrifié les régiments entiers. Bon. Et tout le roman est une sorte de tentative de réhumanisation progressive de cette expérience, et ça ne peut passer que par l'écriture.
Alors, est-ce qu'on est dans le même procédé avec l'autre roman qu'on voudrait évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire Les Géorgiques, que Claude Simon a mis 8 années à écrire, où on a là aussi une narration qui revient, on l'a dit, et même plutôt plusieurs narrations, puisqu'il y a une juxtaposition de 3 époques, qui sont 3 époques aussi guerrières, puisqu'on a l'histoire du conventionnel général d'Empire, puis, enfin, le puits n'est, ne correspond pas à la juxtaposition des histoires dans le roman, mais enfin, il y a aussi le cavalier de 1940 et l'histoire d'un volontaire de la guerre d'Espagne. Oui. Alors, quel lien, finalement, entre l'Acacia et les Géorgiques ? Est-ce qu'il y a un contrepoint de l'un par rapport à l'autre ? Comment ça fonctionne ?
Bah, c'est-à-dire, pratiquement, dans tous les romans de Claude Simon, vous avez ces thèmes. Bon, l'expérience espagnole dans le palace. Alors, l'expérience de la chevauchée sous les balles allemandes, on la retrouve dans au moins 10 livres. Hein, et il y revient dans ses derniers livres. Il y revient notamment dans Le Jardin des Plantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement cette volonté de d'étendre le champ romanesque vers l'histoire pour dire quelque chose que les historiens ne disent pas. Quoi. Bon, on peut parler stratégiquement de la campagne de France en 40. Bon, comment ça a été vécu, c'est tout autre chose. Bon, et ce qui est frappant, par exemple, c'est que si on prend les Géorgiques, donc vous l'avez très bien dit, il y a 3 couches temporelles. L'ancêtre général d'Empire, et là il y a une espèce de reconstitution qui ne peut être que largement imaginée, mais magnifique. Cet ancêtre qui est à la fois prestigieux et un peu mal vu par la bonne société de Perpignan, parce qu'il a été régicide, il a voté la mort du roi. Bon. Et puis la guerre d'Espagne, alors là c'est passionnant, parce que Claude Simon reprend, et ça, c'est presque un exercice de style, mais magnifique, reprend l'hommage à la Catalogne d'Orwell.
Pas forcément pour en dire du bien d'Orwell, d'ailleurs, ou de la manière dont Orwell a vécu cette période.
Il réécrit l'hommage à la Catalogne d'Orwell, et là où Orwell donne sa vision politique, militaire, des troubles de Barcelone en 1936, 1937 et jusqu'en 38, Claude Simon déshistoricise Orwell. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de nom propre.
Il n'y a plus que de l'expérience.
Il n'y a plus que de l'expérience, il n'y a plus que des sensations. Et c'est assez étonnant, quoi. Comme s'il fallait gommer quelque chose d'essentiel pour faire apparaître quelque chose d'encore plus essentiel.
Donc tout ça revient à dire.
Et on retrouve ça dans l'Acacia, puisque par exemple, il n'y a pas de nom propre. Tous les personnages historiques, il y en a qui apparaissent dans le roman, sont désignés par des périphrases. Hein, on reconnaît Lénine, on reconnaît Rommel, on reconnaît l'empereur Guillaume dans les séquences de la guerre de 14, mais ils sont désignés par des périphrases et décrits. Voilà, décrits plutôt que raconté à l'intérieur d'une action.
Donc tout cela, finalement, est une vision de la vie et de la façon dont on cherche à narrativiser sans cesse la vie, à raconter des histoires avec un début, un milieu et une fin. C'est comme ça qu'on fabrique l'histoire et qu'on fait aussi du commun. C'est comme ça aussi que les individus se racontent leur propre vie. Et Claude Simon semble nous dire, et c'est là où peut-être il touche à la philosophie, non, la vie, ça n'est pas ça. La vie, c'est une juxtaposition d'instants.
C'est-à-dire que, en tout cas, quant à l'expérience qu'il raconte, c'est le chaos. Il n'y a pas de commencement et pas de fin. Il n'y a surtout pas de lien syntaxique. Quand nous parlons et que nous racontons quelque chose, nous établissons à cause de la langue et malgré nous, une hiérarchie entre ce que nous racontons. Il y a les principales et il y a les subordonnées, il y a les relatives. Là, tout arrive en même temps, tout est indistinct et chaotique. Et tout l'effort de Claude Simon consiste à dire, voilà, le langage n'est pas fait pour restituer ça. Eh bien, on va essayer de répondre à ce défi.
Guy Scarpetta, on va poursuivre avec vous cette conversation sur la dernière période de l'œuvre de Claude Simon, juste après la chronique proposée aujourd'hui par Frédéric Magé.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Frédéric Magé, directeur de la maison Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Bonjour à vous.
Bonjour.
Aujourd'hui, en écho avec notre émission du jour, vous avez souhaité nous parler non pas d'un texte, mais d'une photographie.
Et oui, et pas de n'importe quelle photographie, une image iconique, fondatrice, à laquelle on continue aujourd'hui à se référer, la photo du siècle, selon André Clavel, celle que prit un jour d'automne 1959, rue Bernard Palissy, le photographe italien Mario Dondero.
La photo du siècle, peut-être pas graphiquement.
En tout cas, sur la photo, on voit 8 personnages répartis hiérarchiquement sur le trottoir, le long de la célèbre vitrine des éditions de Minuit. Ils ont des airs, dit Bernard Pivot, un peu amusé, de chômeurs qui attendraient l'entrée d'un bureau d'embauche ou encore des élèves un peu chenu qu'on aurait comme ça envoyé en récréation sans qu'il y ait de jeu de marelle. De gauche à droite, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Claude Mauriac, Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute et Claude Ollier. On imagine, il n'y a rien de spontané ni d'accidentel dans cette photographie. Le désordre n'est qu'apparent. Elle a été soigneusement préparée et mise en scène par Mario Dondero et surtout par l'éditeur Jérôme Lindon. L'un et l'autre poursuivent d'ailleurs deux objectifs assez différents. Le premier a été envoyé par un magazine littéraire pour réaliser un reportage sur le mouvement littéraire dont tout le monde parle. Tandis que Jérôme Lindon, lui, a un objectif un peu plus promotionnel, nous dit la presse de l'époque, puisqu'il cherche à lancer le club de 400 des 412. Qui vise à créer un nombre restreint de clients à qui on fournirait très régulièrement la production des jeunes auteurs, parce que on ne le dit pas assez, si le nouveau roman on en parle, eh bien on ne le lit pas beaucoup en France. À titre d'exemple, bien en attendant Godot, l'année de sa sortie, on en vend 988 exemplaires, et il faudra 8 années pour écouler les 4000 exemplaires du premier tirage des gommes de Robbe-Grillet. Heureusement, le prix Renaudot à la modification de Butor a remonté et redoré un petit peu la comptabilité.
Alors comment ça s'est passé, cette prise de vue finalement?
Bien, d'abord, il y a une liste qui a été évidemment réfléchie. Jérôme Lindon a été chargé de persuader Samuel Beckett, évidemment. Manque à l'appel Michel Butor, qui est en retard. Pourtant la star de la maison. Et Marguerite Duras, qui n'a pas été conviée, parce qu'il faut dire qu'elle est alors un peu trop identifiée à Gallimard, qui demeure encore son éditeur principal. Alors au départ, on commence par les aligner, les uns à côté des autres, mais l'effet est un peu trop footballistique, ça ne s'invente pas. Et Dondero leur demande, un peu à la façon d'un tournage de cinéma, de déambuler sur le trottoir et de ne pas faire attention à lui. Et c'est comme ça qu'il saisit cet instantané. Alors la photo n'est pas tout de suite diffusée en France. Elle est diffusée à partir de 1962. Alors là, immédiatement, tout le monde la reprend en France, à l'étranger. C'est la photo de référence, y compris dans les manuels scolaires, où elle devient la photo emblématique, rubrique nouveau roman. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que par un singulier effet de renversement, eh bien, cette photographie qui était au départ censée illustrer un mouvement naissant, va en fait le faire naître. C'est ce que dit très bien Anne Simonet dans un article magnifique de la revue Politique 190. Cette photographie, dit-elle, n'enregistre pas l'existence du nouveau roman, elle l'institue, elle devient le symbole de ce qu'initialement elle prétendait représenter. Ainsi, écrit-elle, l'école du regard était née de l'objectif d'un appareil photographique.
Mais alors là, Frédéric, ce qui m'étonne, c'est que d'habitude, vous venez nous parler des femmes dans cette chronique du jeudi. Et là, précisément, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y en a même qu'une sur cette photo.
Eh bien, il y en a une, et je n'ai jamais vraiment compris qu'on n'ait pas fait attention à la place même de Nathalie Sarraute sur cette photographie, parce que de toute évidence, elle apparaît décalée. On la voit à droite de l'image, couverte d'un long et imperméable clair, un foulard noué autour du cou, et les jambes croisées comme pour mieux tenir une position droite, immobile. Elle semble un peu à part, un peu décalée, le regard perdu vers un ailleurs, vers un en dehors du cadre, alors que tous les autres regards semblent semblent se croiser, se fixer les uns et les autres et créer des liens. Est-ce que c'est la proximité de Samuel Beckett, qui est juste à droite, dont on dit qu'elle le hait? Est-ce que c'est aussi parce qu'elle n'est pas de la même génération que les autres écrivains qui sont réunis ici? Elle est née en 1900, les autres ont 15, 20, 25 ans de moins qu'elle. Est-ce que c'est aussi parce que, un peu comme Marguerite Duras, elle n'est pas un éditeur minuit, elle n'a publié... Certes, il est important la réédition de Tropisme en 52, mais sinon elle va demeurer un auteur Gallimard. Est-ce que c'est parce que c'est la seule femme? Peut-être. À mon avis, la raison est peut-être plus personnelle et intérieure. Lorsque j'ai préparé cette chronique, j'ai retrouvé ce croquis comme pris sur le vif par Violette Leduc en 1970 qui m'a semblé comme un écho à cette photographie. Elle baissa les yeux. Elle ressembla à une croyante qui cherche la vérité dans une prière. Elle fixait le point rouge de sa cigarette. Elle continuait pour elle-même à peser le pour et le contre. Sur cette photo, eh bien, on voit Nathalie Sarraute pesant le pour et le contre, consciente plus qu'aucune autre sans doute de l'extraordinaire danger dissimulé derrière toute tentative de communication et d'ailleurs dont toute son œuvre et singulièrement son théâtre seront l'expression.
Est-ce que, du coup, cette position sur la photo reflète pour vous sa place dans le mouvement du nouveau roman ?
En partie. Lorsque la photo est prise en 59, la position et la place de Nathalie Sarraute est en train de changer. Ses premiers ouvrages, donc la première édition de Tropisme en 39 ou bien Portrait d'un inconnu en 49, étaient sortis dans une quasi-indifférence. Et c'est la publication de L'ère du soupçon en 56 qui l'a véritablement révélée. Elle va devenir, pour toute cette jeune génération qui aspire à des choses d'ailleurs assez diverses, une sorte de chef de file. Et pourtant, elle n'a rien d'un chef de file. Elle n'a pas l'esprit de bande. Si elle s'accorde avec ses jeunes comparses, comme d'ailleurs beaucoup d'autres membres du nouveau roman, c'est parce qu'elle partage les mêmes refus, celui de la littérature engagée, bien sûr, de la psychologie, de la psychanalyse, de ce qu'elle appelle joliment la copie d'anciens. En somme, disait-elle, j'aime bien cette formule, nous sommes une association de malfaiteurs. Il ne pouvait, en fait, je pense, selon Nathalie Sarraute, et j'ai immédiatement pensé à Claude Simon à l'instant, y avoir de voix unique. Dans le fond, sa position était moins de rupture que de continuité. Elle était, elle aussi, une grande lectrice, une admiratrice de Marcel Proust. Son monde n'était pas d'une extériorité objectivée, mais bien celui d'une exploration de l'intérieur par l'intérieur, dans une attention aux conventions, aux clichés, à ce qu'elle appelle les tropismes, qui nous empêchent d'avoir accès au mouvement authentique de notre pensée. Une pionnière, sans doute, mais pas un chef de file.
En quelques secondes, vous vouliez nous évoquer un éditeur bourguignon qui est lié à Claude Simon, puisque c'est cet éditeur qui vient de publier un inédit d'une pièce avec Mireille Kalgruber, d'ailleurs, qu'on recevait lundi dernier. Cet éditeur s'appelle Le Chemin de Fer et la pièce s'appelle La Séparation.
Oui, je voulais rendre hommage à cette fantastique petite maison d'édition qui a été créée en 2004, qui publie des textes courts illustrés par des artistes contemporains, 7 à 10 ouvrages qui sortent chaque année, à la fois effectivement des auteurs contemporains, dont beaucoup de femmes, mais surtout, et c'est ça que je voudrais saluer ici, un formidable travail de redécouverte du patrimoine littéraire. Claude Simon, on en a parlé, Albertine Sarrazin, Violette Leduc, Béatrix Beck, dont ils ont entrepris de rééditer toutes les créations. Un auteur qui est injustement oublié, que j'espère un jour pouvoir évoquer à cette antenne.
Merci beaucoup Frédéric Maget. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se rendre à la maison de Colette à Saint-Sauveur en Puisée, où vous les accueillez. À bientôt. Compagnie des auteurs sur France Culture. C'est le dernier moment de notre série consacrée au prix Nobel de littérature Claude Simon. Nous sommes avec Guy Scarpetta pour parler de ses derniers livres et en particulier de L'Acacia. On écoute tout de suite Claude Simon.
Le narrateur d'un livre, ce n'est pas l'auteur. C'est une espèce de personnage qui naît de la rencontre du travail de l'auteur, de la rencontre de l'auteur avec le langage. C'est pas lui. Un fait que nous percevons, je ne dis même pas un fait réel, mais supposez qu'on veuille entreprendre de décrire un fait que j'ai perçu. Ben, entre le moment où je l'ai perçu et entre celui où je l'écris, ben, il y a une série de déformations qui sont tellement effarantes. Pensez d'abord que nous percevons très mal, nos sens sont assez imparfaits, n'est-ce pas ? Donc nous percevons qu'un aspect limité des choses. Bon, ensuite, on n'écrit pas sur le moment, on écrit en se rappelant la mémoire. Nous savons aussi à quel point elle est imparfaite. Bon, en plus, à partir de ce moment-là, vous voyez déjà deux déformations assez grandes qui se produisent. Troisième déformation, c'est que nous mettons tout ça dans le langage écrit, qui fait se succéder les éléments du discours, alors que ce que nous percevons dans la vie, c'est simultané. Ensuite, il faut bien obéir aux règles de la syntaxe, aux règles de la composition. Par conséquent, nous donnons un ordre encore à tout ça. Alors, si vous enregistrez la superposition de toutes ces déformations, je ne crois pas que l'on puisse parler d'autobiographie ou de reflet fidèle de la vie de quelqu'un.
Que retenez-vous, Guy Scarpetta, de ce que Claude Simon disait ici en archive à Francine Mallet? C'était en 1971.
Ça renvoie à quelque chose, je ne connaissais pas ça, mais ça renvoie à quelque chose que j'ai dit, c'est-à-dire que, à l'instant, c'est-à-dire que la grande question de Claude Simon, c'est quelle écriture peut restituer quelque chose qui ne répond pas à l'ordre logique et chronologique de la langue et du récit.
Quelle écriture et puis quelle organisation du roman aussi, quelle succession des chapitres les uns par rapport aux autres, par exemple.
Oui, mais là il y a une alternance. Hein. On passe de 1914 à 1940, on revient à 1914, on part à 1940, donc la structure est extraordinairement apparente et claire. Bon, la vraie question, la vraie difficulté, c'est de savoir qui raconte l'histoire. Hein. Parce que Claude Simon parle de narrateur, il a raison, c'est pas une autobiographie au sens où il a pas écrit un livre pour raconter sa vie. Il a écrit un livre pour raconter. Tenter de raconter une expérience. Alors, au début, le narrateur n'apparaît pas, il est effacé. Hein. Premier chapitre, on voit trois femmes qui cherchent une sépulture dans un pays ravagé par la guerre. Ensuite, au moment de la guerre de 14, c'est pareil, on a des sortes de séquences narratives, mais le narrateur n'apparaît pas en tant que tel, du moins pas complètement. Et puis, au chapitre 7, qui est un chapitre fondamental, le narrateur va, et là on est en 1980, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anticipation, de flash-forward, comme disent les cinéastes, et le narrateur va recueillir des témoignages sur le départ de son père pour la guerre, auprès de vieilles femmes qui étaient des enfants à l'époque.
Ce qu'il a peut-être fait d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il a fait des recherches, Claude Simon, au moment de l'écriture, donc
c'est
à
très
ce
probable.
Moment-là,
bon,
des années 80.
Il met en scène un narrateur qui fait une enquête quoi, sur son père. Et là, on se rend compte que ce narrateur peut, et même très probablement, le fils de l'homme qui a été tué à la guerre, que l'on a vu dans les chapitres impairs. Et comme, en même temps, il y a des références dans les chapitres de la guerre de 40 à cet épisode qui se passe en 1914, l'autobiographie est suggérée.
Elle est quand même clairement présente.
Elle est suggérée, d'autant plus qu'il y a des moments où l'écriture se désigne elle-même, donc le narrateur est présent. Quand Claude Simon, ce procédé qu'il emploie souvent, emploie des modalisations, des peut-être, des sans doute, revient sur la fiabilité ou non de ce qu'il vient de raconter. Quand il utilise très souvent la formule ou plutôt, hein, il dit pas. Je prends un exemple que j'ai sous les yeux, il dit pas une bouteille d'eau, il dit une bouteille d'eau ou plutôt cet ensemble de plastique et de liquide qui est destiné à me rafraîchir mais que je n'arrive pas à ouvrir. Le ou plutôt, un écrivain classique aurait eu le choix entre une formule plate et une formule plus développée, il aurait biffé. Claude Simon ne biffe pas.
Pourquoi ? Quel est l'effet produit
ça,
alors, selon
plutôt,
vous ?
Eh bien, on voit l'écrivain en train de tâtonner, on le voit en train de chercher justement à capter le réel. C'est la présence de l'écrivain dans ce qu'il raconte.
Bon, c'est l'écrivain qui se raconte en train d'écrire aussi.
C'est comme quand vous regardez Tournesol de Van Gogh, vous voyez aussi le rythme du poignet de Van Gogh. Bon, vous voyez pas seulement des tournesols. Bon, toute la modernité, c'est ça. Il y a ça chez Claude Simon. Il y a des commentaires aussi où il y a, parce qu'il y a pas de jugement global. C'est pas Malraux, hein. Loin de là. C'est même l'anti-Malraux, Claude Simon. Mais Malraux interprète et juge tout ce qu'il raconte. Bon, là, mais il y a de temps en temps des personnages qui établissent un jugement sur l'état-major, sur les planqués à l'arrière. Il y a des formules de doxa, la manière dont on parle des gitans, par exemple, à Perpignan. Il y a une sorte d'opinion commune qui passe. Et puis, il y a évidemment le formidable chapitre 7.
Alors, on va en parler, mais peut-être sur cette idée que vous venez de énoncer, que Claude Simon portait des jugements, est-ce qu'on peut aller aussi jusqu'à dire que dans cette littérature qui est censée être une littérature où il n'y a pas d'idées, où il n'y a pas de thèse ni de thème, il y a quand même justement des idées, des thèses et des thèmes sous-jacents?
Il n'y a rien de plus terrible que la manière dont il parle de la guerre d'Espagne, par exemple, où il voit quelque chose de naïf, de furieux, d'enfantin, voué à l'échec, etc. Bon, c'est pas un jugement, mais il le décrit. Et il y a aussi, dans l'Acacia, un chapitre extraordinaire qui raconte ce que le narrateur, donc, qui sera soldat en 40, a vécu quelques années avant, c'est-à-dire un voyage qui l'a amené dans l'Allemagne nazie, en Pologne et dans la Russie stalinienne.
Là aussi encore un passage autobiographique. Alors vous vouliez en venir à un chapitre en particulier qui vous ouais. intéresse plus que les autres encore et que vous voulez analyser pour nous.
Bon, ce qui est frappant, c'est que dans ce chapitre, donc, il y a un vieil homme qui va chercher les témoignages sur quelque chose qui a eu lieu pratiquement au moment de sa naissance, mais auquel il n'a pas assisté. Bon. Puisqu'il est né au moment de la mort du père, quoi. Bon, c'est à peu de choses près. Il parle du coït qui lui a donné naissance en le comparant à ces insectes qui viennent déposer leurs semences avant de mourir.
Alors, bon. Ça d'ailleurs, c'est assez incroyable, ouais. Pour un écrivain du parler du coït de sa mère. Personne, finalement, même Bataille, n'a jamais osé faire quelque chose de similaire.
Il va plus loin, parce qu'il parle de la jouissance de sa mère, même, à un moment. Et ça, il touche à un tabou. Mais bon, donc, il va, pour revenir au chapitre 7, il va chercher les témoignages. Les vieilles dames, qui à l'époque étaient des enfants, lui racontent comment son père est parti à la guerre. À cheval, les gens massés dans la cour, la serveuse noire qui tient le bébé, c'est-à-dire lui, le portail qui se ferme, etc. Et au fur et à mesure qu'il le décrit, il y a un luxe de détails, un luxe de sensations, le cliquetis des pas du cheval, le bruit que fait le portail qui se ferme, la manière dont la lumière est filtrée, qui ne peuvent évidemment pas venir d'un témoignage. C'est-à-dire que surtout d'un témoignage émanant de femmes qui étaient des gamines à l'époque, dont il invente. Au fur et à mesure, il ancre ça dans une sorte d'effet de réalité, qui est celui du témoignage, quelqu'un l'a vu, le raconte, mais lui, il le réinvente complètement, et avec un extraordinaire déploiement d'imagination.
Des auteurs sur France Culture. Alors, comment qualifier une autre scène qui vous a intéressé et puis qui permet d'ouvrir sur d'autres thèmes, qui est la scène du bordel dans le dernier chapitre du roman où vous expliquez que tout vole en éclats, un petit peu comme à la guerre finalement.
Ouais, c'est extraordinaire parce que le narrateur, personnage, il s'est évadé, il a été fait prisonnier, il a vécu dans un camp dans un camp de prisonniers. Il revient chez lui et c'est le moment du retour à la vie, quoi. Après, bon, de tout ce qui a été marqué du signe de la mort, il est jeune, il a des appétits, il a des instincts. C'est logique pour lui d'aller au bordel pour essayer de retrouver la vie. Bon,
retrouver le temps perdu, on pourrait dire.
Voilà. Mais dans cette séquence, c'est extraordinaire parce que d'abord, son identité est toujours un peu explosée. Dès qu'il arrive au bordel, il voit des miroirs où il se voit multiplier en plusieurs images. Il se voit plusieurs fois. Les femmes qu'il voit sont réduites à des fragments. C'est pas des femmes, c'est des coulées de chair, des cuisses, des seins, à peine unifiées. L'indistinction générique dont on parlait, elle est toujours là. La maquerelle est une femme à tête de mule. Le kimono des prostituées est rempli de motifs végétaux. Les toisons pubiennes des prostituées sont désignées comme des broussailles, des buissons. Donc on est toujours dans cette espèce d'indistinction entre le végétal, l'animal, l'humain. Le coït a lieu, et là il y a ce truc extraordinaire, c'est que le passé qu'il voulait conjurer revient dans le présent. C'est-à-dire que la fille à un moment l'amène dans les chambres qui sont au premier et lui dit « monte ». Et il suffit de ce mot « monte » pour qu'il se revoie à cheval derrière l'officier qui le conduit vers la mort. Derrière ce qu'il appelle l'anachronisme équestre qui brandit son sabre au moment où on tire dessus. Et dès qu'il a fini de faire l'amour, presque sans transition, il y a une séquence où il ne pense qu'à une chose, c'est les poux, la puanteur de la baraque où il était prisonnier. C'est-à-dire que le trauma est tel qu'il envahit le présent et qu'on a l'impression que le personnage ne s'en sortira jamais.
C'est vraiment Eros et Thanatos, pour le coup, c'est presque un cas d'école.
Si je peux, c'est qu'on arrive à la fin, j'ai trouvé quelque chose d'équivalent dans l'écriture ou la vie de Semprun. C'est-à-dire le moment où le déporté revient, il veut revivre, il participe au défilé du 1er mai, donc il redevient le militant qu'il était avant la guerre, avant la résistance, il y a des drapeaux rouges, c'est le 1er mai, il est libre, mais il revient de Buchenwald. Bon. Et à ce moment-là, le 1er mai 1945 à Paris, il y a de la neige. Et dès que la neige tombe, il voit la neige éclairée par les projecteurs, derrière les barbelés, sous les miradors de Buchenwald. Et il se dit, pour moi, Buchenwald sera toujours en moi, je n'en sortirai pas, il y aura toujours de la neige dans tous mes printemps. Et c'est quelque chose d'équivalent. C'est très drôle, ces deux écrivains qui ont peu de points communs, sauf peut-être...
Si ce n'est quand même le trauma...
Sauf peut-être qu'ils sont tous les deux proustiens.
Même si ce n'est pas du même ordre.
C'est-à-dire que c'est quand même l'effet de la petite Madeleine ou du pavé inégal dans la cour des Guermantes, mais qui là s'applique à quelque chose que Proust n'a pas vécu, qui est le traumatisme historique.
Pour vous, c'est donc la question du temps qui est centrale et du temps suspendu dans quasiment tous ces romans, y compris et peut-être encore davantage dans ces romans de la fin.
Bah oui, parce que personne ne vit dans la chronologie. Si vous enregistrez ce qui vous passe par la tête pendant une journée, entre le moment où vous vous levez et le moment où vous vous couchez, on n'est pas dans la chronologie.
Est-ce qu'il y a, dans la restitution de ce temps, quelque chose qui est spécifiquement baroque? Vous aimez bien ce mot-là et vous l'utilisez souvent, enfin ce mot qui est aussi un concept. Est-ce qu'on peut en parler Claude Simon?
Parce qu'il y a, dans la manière qu'a Claude Simon de raconter cette expérience, mais qui est profondément humaine, encore une fois, hein, des digressions,
mais
des
profondément esthétique quand même aussi.
Oui, des éléments annexes divergents, des parenthèses rajoutées, des parenthèses dans la parenthèse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la narration est en expansion. On a l'impression aussi qu'il y a des éléments considérés comme subalternes ou ornementaux dans la prose traditionnelle qui deviennent l'essentiel. Le nombre de figures analogiques, de comparaisons, et surtout de comparaisons narratives, c'est-à-dire les séquences qui commencent par « comme si ». C'est-à-dire le « comme » n'introduit pas une métaphore ou une analogie, il introduit un nouveau récit.
Et les participes présents aussi, qui ont un peu la même fonction.
Le participe présent, alors là, moi, j'ai pensé souvent que le français était privé d'un temps grammatical que les Anglais ont, qui est la forme progressive. Bon. Nous, on dit « je marche », un Anglais dit « I walk » ou « I am walking », c'est-à-dire « je suis en train de marcher ». Le « en train de » n'existe pas sous forme de temps grammatical. Bon. Et il y a Claude Simon substitue ou rémunère, comme disait Mallarmé, ce défaut de la langue en accumulant les participes présents comme si c'était des verbes d'action. C'est-à-dire que ça crée une impression de dynamique. Donc, foisonnement, exubérance, prolifération des métaphores, surabondance des comparaisons, c'est une dépense narrative, quoi.
En deux mots, Guy Scarpetta,
baroque, on peut dire baroque.
En quoi Claude Simon vous a inspiré en tant que romancier?
Il m'a ouvert la voie qui m'a amené à Faulkner.
Merci beaucoup, Guy Scarpetta. Merci beaucoup Guy Scarpetta. Je rappelle que votre livre « L'âge d'or du roman » est publié aux éditions Gracil il y a quelques années maintenant, mais on peut toujours le trouver. Depuis, beaucoup de livres de vous ont paru. Citons par exemple votre participation l'an dernier à un ouvrage sur Meredith Monk aux éditions Art Press. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurent Travagli, Chanel Garance, Mazelier et Florent Bujon. Demain, vous retrouverez La Compagnie des Poètes. Ce sera avec Manu Farine, mais tout de suite de la poésie déjà, mais cette fois avec Jacques Bonnafé.
Bonjour Mathieu, bonjour La Compagnie. Restons aujourd'hui tête en bas. Non, nous ne sommes pas des chauves-souris, nous sommes des lecteurs de La Blanche. Poème d'Étienne Faure, tête en bas. Ne quittez pas, c'est le printemps, croit-on, entendre in extremis comme on s'apprête à sauter, la rambarde ou bien non, tout compte fait, rechigne à en finir pour de bon, au bord d'en rire infiniment, c'est fou ce que l'écho du désarroi fracasse, les os de la carcasse la déglingue, âme encore, attachée par un fil qui la retient. C'est le printemps, l'heure d'arpenter sa cellule, comme auront fait les moines prisonniers étudiants, reclus dans des pensées insupportables au point de les fuir par la marche, arpents mesurés dedans en mille pas, dehors en kilomètres de désir tel que la moindre tristesse, âme en peine, ressort ses attirails d'amour, jupara barésille, juste au corps présumé attirer la foudre, jusqu'où la rue, devenue chemin puissante, abandonne aux arbres fleuris la caresse au bord des épaules. Sortir. Comme un titre au poème, sortir. Ça se trouve dans la partie poème d'appartement. On a essayé de marquer chaque vers, hein, chaque enjambement aussi. On pourrait prendre quelques pages plus tôt, 55, dans la partie dans la bouche. Le haut de stupéfaction des bouches que Goya aura peintes, auscultant la mort des pauvres, des puissants, des pauvres, puis le haut du regard excavé, absent de l'extérieur, rien qu'en dedans, portant loin la vision ancienne des mourants imminents, l'exorbitante habitude de la vie, d'évincer toute chair, laisser le vide gangréner les joues plénières, les orbites, c'est la même ombre au creux des portes cochères, la nuit qui gagne les corps emboîtés pour embrasser d'amour l'être cher dans l'encoignure d'un coup nacré par le désir attisant l'attirance et la respiration, le feu des yeux perdu et perdu à paix, eau. De ces nuits à deux corps dans un lit, il garde le réflexe de dormir sur le bord, non pas au centre, en souvenir de l'autre qui pourrait ressurgir, se lever contre lui, demander asile. Un soir de neige à pas feutré, traverser la chambre où le rêve et sa ligne de flottaison persistent, au plus rêche de l'entrée, en matière y a quelqu'un, revient l'épais silence, voix tranchante, il répète, y a personne. Comme aux frontières de l'Europe, hier, quelque chose, rien, tout a déclaré. Il écrit, se relève la nuit pour écrire ce qui pourrait devenir une lettre sur du papier juste avant la dématérialisation des amours et des déclarations qui vont avec âme et hameau où vivaient les amants qui traversent à découvert la nuit.
Jacques Bonnafé, merci pour cette suite et fin de votre semaine blanche avec le recueil Tête en bas d'Étienne Faure.